Chapitre 18, Sally et George Carey. Mount Pleasant, New Hampshire, mardi 13 juillet 2010. Lorsque Gaalwood et moi passâmes la porte du magasin, une sonnerie électronique alerta une femme qui apparut de l'arrière-boutique. En voyant Perry, son visage se figea.
Alors c'est donc vrai, sergent, vous avez rouvert l'enquête?
Nous disposons de faits nouveaux, Madame Carey. Elle me dévisagea.
Vous êtes cet écrivain, n'est-ce pas?
Oui, madame, je m'appelle Marcus Goldman. Elle passa la tête par la porte de l'arrière-boutique pour interpeller son mari.
George, viens, c'est à propos de Waltie.
Sally et George Carey insistèrent pour que nous allions discuter au Season, qui se trouvait de l'autre côté de la rue. Gaalwood avait suggéré de rester au magasin, par égard pour eux, mais Sally Carey lui avait répondu
« Je veux que tout le monde nous voit en train de parler aux flics. Ça fait 11 ans qu'on se cache, 11 ans qu'on nous regarde de travers. Il est temps de réhabiliter notre fils. »
La terrasse étant bondée, nous nous installâmes à l'intérieur. À peine assise, Sally Carey nous dit
« Walter ne s'est pas suicidé, c'est ça? Il n'a pas tué ce policier non plus. »
Gaalwood resta impassible.
« Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?»«
Une mère connaît son fils. Waltie était un militaire, un type qui avait le sens de l'honneur. Ce n'était pas un meurtrier, ni un lâche. Si vous êtes là, c'est que vous le savez. »«
Nous sommes là parce que nous devons vérifier certains éléments de l'enquête. »«
Qu'est-ce que vous nous voulez concrètement ?» demanda alors George Carey, qui semblait moins enclin que sa femme à rouvrir les blessures du passé.
« Que vous nous parliez de votre fils. Nous aimerions le connaître un peu mieux à travers vous. »
« 11 ans plus tard, vous vous réveillez enfin ?» déplora George Carey.
« Je comprends que cela puisse être difficile, » reconnut Gaalwood.
« Difficile ? Insupportable, vous voulez dire ?»«
George !»
l'admonesta sa femme.
« Du calme !»
Il se tut, le visage fermé. Sally Carey nous décrivit alors, d'une voix apaisée, leur fils Walter, un garçon plutôt introverti, amateur de plein air.
« C'était un solitaire !»
nous expliqua-t-elle.
Enfant, il se suffisait à lui-même. Il fabriquait ses propres mouches et il passait ses journées à pêcher. À 10 ans, il connaissait déjà tous les bons coins. Au magasin, il conseillait les clients, dont certains, pourtant des pêcheurs émérites, faisaient appel à lui. « Est-ce que le petit est là ?» qu'il demandait. « Ah non, répondais-je, il est à l'école. Faut venir samedi, mais le matin. L'après-midi, il pêche. » S'il n'était ni à l'école ni à la pêche, Waltie était au magasin. Je trouvais que c'était presque trop. J'avais envie qu'il ait des copains, qu'il s'amuse un peu. Je m'en étais même ouverte à Janet Donovan. Eric avait une bande d'amis et j'aurais souhaité que mon fils puisse en faire partie. Un beau jour, Eric a débarqué au magasin. J'imagine que sa mère lui avait demandé de faire un effort et d'être sympa avec Waltie. Ils se sont rapidement liés jusqu'à ne plus se quitter. Ils étaient toujours fourrés ensemble. Si Waltie n'était pas chez nous, c'est qu'il était chez les Donovan et inversement. Je me souviens que pour se déplacer d'une maison à l'autre, il courait, comme des flèches, comme si la vie était trop courte pour marcher. Toujours à galoper comme deux diables. Alors qu'il devait avoir 15 ans, l'entraîneur de l'équipe de course du lycée de Mount Pleasant, qui était un client, est venu un jour au magasin et m'a dit « C'est votre fils que je viens de voir passer comme une fusée ?»« Oui, il est au lycée de Mount Pleasant, non ?»« C'est exact. Pourquoi ne fait-il pas partie de l'équipe de course à pied ?» C'est comme ça que Waltie a rejoint l'équipe, et Eric aussi.
Eric était un bon athlète, intervint George. Mais il n'aurait pas eu l'idée de rejoindre l'équipe si Walter ne l'avait pas intégré. C'est d'ailleurs Walter qui a dit au coach qu'il ne viendrait pas sans Eric.
À vous entendre, dit Gaalwood, cela semble avoir été une belle amitié.
Ça l'était jusqu'à la fin de l'adolescence, répondit George Carey.
Est-ce que vous faites allusion à un épisode particulier ?
Demanda Gaalwood.
Oui, répondit George Carey, lorsque Eric Donovan a piégé Walter pendant la compétition de course à pied.
Février 1988. Walter et Eric étaient en dernière année de lycée. Il était temps de songer à l'avenir. Ils voulaient tous les deux aller à l'université pour suivre des études de commerce et passer des heures à étudier les brochures de différents établissements. Ils éliminèrent les universités trop lointaines. Ils voulaient pouvoir revenir facilement à Mount Pleasant. Puis, ils écartèrent les universités trop coûteuses. Leur choix se porta finalement sur l'université de Monarch dans le Massachusetts, qui proposait un solide cursus en études commerciales. Leurs parents n'avaient pas les moyens d'assumer les frais de scolarité et les deux garçons avaient d'abord songé à faire un emprunt, comme beaucoup de jeunes Américains dans leur situation. Mais tant Mark Donovan que George Carey les en dissuadèrent. Un emprunt universitaire, c'est un boulet avant même d'entrer dans la vie active. Mieux vaudrait obtenir une bourse. Si leurs résultats scolaires étaient tout à fait honorables, ils n'étaient pas suffisants pour prétendre à une bourse d'excellence. Leur seule chance était d'obtenir une bourse sportive. Ils devaient miser sur leur qualité d'athlète. Deux mois plus tôt, ils avaient créé la surprise en remportant leur relais aux championnats régionaux. Ils pouvaient prétendre attirer l'attention de recruteurs universitaires. Mark Donovan et George Carey sollicitèrent alors le coach de l'équipe de course du lycée pour qu'ils soutiennent leur fils.
« Je ne vous cache pas que Mount Pleasant n'attire pas les recruteurs », les prévint le coach. « De toute ma carrière, je n'ai jamais pu obtenir une bourse pour un de mes gamins. Mais il est vrai qu'Eric et Walter ont détrôné plusieurs favoris lors des championnats. On devrait pouvoir faire quelque chose. Je pense à la prochaine compétition interlycée début mars. » Ça reste très local, mais je vais m'efforcer de convaincre certains recruteurs d'y assister. »
Le coach tint parole. Il se démena auprès de son réseau. Mais ses interlocuteurs ne s'avérèrent pas convaincus.
« Si vos poulains étaient si épatants, on en aurait entendu parler », lui opposèrent-ils.
En désespoir de cause, il se déplaça personnellement dans le Massachusetts pour rencontrer l'entraîneur de l'université de Monarch.
« Ces deux gars sont d'excellents athlètes », plaida le coach. Ils rêvent de venir étudier à Monarch, ils se défonceront. »
Il restait encore une place au sein de l'équipe et l'entraîneur cherchait la perle rare. Il ne pouvait pas non plus faire la fine bouche. Plusieurs des coureurs qu'il avait voulu recruter avaient répondu aux sirènes d'universités plus prestigieuses.
« J'assisterai à la compétition interlycée », annonça l'entraîneur, « mais je n'en retiendrai qu'un seul, à lui de m'impressionner sur la piste. » « Il n'y aura qu'une place », expliqua le coach à George Carey quelques jours avant la compétition. « J'ai informé les garçons qu'un recruteur de Monarch serait présent, mais je n'ai pas mentionné qu'un seul serait sélectionné, je ne veux pas les stresser inutilement. J'ai dit à l'entraîneur de Monarch que Walter était le meilleur. C'est un bolide, votre garçon. Je pense qu'il sera choisi. Je tenais à vous le dire. » « Merci, coach. Merci pour tout. Qu'est-ce que je dis à Walter ?»«
Rien, surtout ne lui dites rien. » Veillez simplement à ce qu'il se repose bien et qu'il soit en forme le jour de la compétition. »
Le jour dit, les familles Donovan et Carey se rendirent ensemble au stade municipal pour soutenir leur champion. L'ambiance était bonne enfant. Eric et Walter concouraient d'abord pour un sprint de 100 mètres, un peu plus tard sur une course de fond de 4 kilomètres. Les participants prirent place sur la ligne de départ pour la première épreuve. Eric semblait très concentré. Walter paraissait mal à l'aise, peinant à s'installer dans ses marques. Alors que le commissaire s'apprêtait à donner le départ, Walter quitta la piste et s'enfuit en direction des vestiaires.
Walter a été pris d'une diarrhée épouvantable, nous expliqua George Carey. Il n'a pas pu concourir. Le coach a estimé que c'était le trac. Moi, je pense qu'il a été empoisonné. On a mis un laxatif dans son eau, quelque chose du genre.
« Et qui aurait fait une chose pareille ?» demanda Galwood.
« À votre avis ?» répondit George Carey. « Eric Donovan. Walter, hors jeu, c'est lui qui a bénéficié de la bourse pour l'université de Monarch. Eric a dû apprendre qu'il n'y aurait qu'une seule place dans l'équipe. Il savait bien que Walter partait favori. Il s'est débarrassé de lui. Eric a toujours été jaloux de Walter. Ça a continué avec Alaska. » Il ne pouvait pas supporter que mon fils soit en couple avec une jeune femme pareille. Alors il l'a tué et il s'est arrangé pour que Walter porte le chapeau. Il l'a piégé comme il l'avait déjà piégé avec cette course à pied.
« Vous avez des preuves de ce que vous avancez ?» demanda Galwood.
« Pour la compétition de course à pied, non. Pour Alaska, Eric lui tournait autour. Ma femme l'avait remarqué. Et ça, vous le savez, puisqu'elle vous l'avait dit à l'époque.
« C'est vrai, » concéda Galwood. Mais je me souviens également que Walter avait réfuté en bloc une éventuelle liaison entre Eric et Alaska. Vous avait-il fait part de doutes concernant l'intégrité d'Eric ?
Non, mais vous savez que l'amitié rend parfois aveugle.
Comment Walter avait-il réagi après l'épisode de la compétition ?
Avec philosophie, comme il le faisait toujours. Il a répété ce que le coach lui avait mis dans la tête, c'est le trac.
Donc Eric est allé à l'université, et Walter...
Il tenait à aller à l'université malgré tout, raconta Georges Carré. Et comme je l'avais convaincu de ne pas s'endetter avec un prêt étudiant, il n'a rien trouvé de mieux que de s'engager dans l'armée pour financer ses études. 3 ans au service de l'oncle Sam. En contrepartie, sa formation universitaire serait payée par le gouvernement. Son expérience sous les drapeaux lui a plu. Les 2 premières années se sont passées sans nuages. Il était basé en Virginie, avait des permissions régulières. Tout allait bien. Et puis à l'été 1990, les États-Unis sont entrés en guerre.
Le 2 août 1990, l'annexion du Koweït par l'Irak marqua le début de la guerre du Golfe. Quelques jours plus tard, les États-Unis déclenchaient l'opération Bouclier du désert en déployant leurs troupes dans le désert saoudien. Walter passa plusieurs mois à protéger les puits de pétrole du royaume wahhabite. Plusieurs mois à attendre un ennemi qui ne se montra jamais. Les journées étaient remplies par des exercices, des tours de garde et surtout beaucoup de camaraderie. À son retour du Golfe, Walter n'avait pas tiré un coup de feu. Il n'avait rencontré que ses frères d'armes et n'avait pour ainsi dire pas quitté sa base au milieu des dunes. Il avait aimé cette expérience au cours de laquelle il avait été gonflé à bloc de convictions patriotiques. Il décida donc de rempiler pour 3 années et fut bientôt envoyé en Somalie. La Somalie, c'était une vraie guerre, sale, violente. Une autre paire de manches que le cantonnement en Arabie Saoudite. Les parties de flippers et de fléchettes qui avaient rythmé son quotidien pendant Bouclier du désert furent remplacées par des patrouilles périlleuses dans les rues de Mogadiscio où des snipers les canardaient depuis les toits.
« La Somalie, c'était l'enfer », nous dit Georges Carré. Lors de nos rares coups de fil avec Walter, il nous confiait sa peur. Il a fini par vivre une nuit d'horreur lors d'une mission de soutien aux Delta Rangers chargée de capturer un chef rebelle. Leur unité a été prise en embuscade. Il a vu mourir plusieurs de ses camarades. Je crois que cette nuit-là, tout a basculé. À partir de là, il lui arrivait parfois de perdre ses nerfs.
Peu après le retour de Walter aux États-Unis, au début de l'année 1994, sa carrière militaire prit fin prématurément après un incident dans sa base de Pendleton en Virginie.
Quel genre d'incident ?
Demanda Galwood.
On ne va pas vous raconter de salade, sergent. Vous pourrez de toute façon vérifier. Walter a eu un violent accrochage avec un supérieur hiérarchique. Ils en sont venus aux mains. Que s'est-il passé ?
Le lieutenant de première classe en charge de leur unité était un type assez cruel. Il a voulu organiser une expédition punitive contre l'un de ses soldats qu'il jugeait indiscipliné, et a ordonné à Walter et à une petite équipe d'aller lui flanquer une raclée. Walter a refusé. Le ton est monté entre les deux et ça a dégénéré. L'affaire a été réglée en interne. L'armée a préféré étouffer les agissements du gradé en ne sanctionnant pas Walter. Il a été libéré de ses obligations militaires. De toute façon, il en avait sa claque, je crois.
Walter retournait à la vie civile fatigué et usé par ce qu'il avait vécu en Somalie. Il n'avait qu'un souhait, mener une vie tranquille à Mount Pleasant. Reprendre le magasin familial, passer ses week-ends à pêcher, rester à l'abri du monde.
Il a renoncé à ses études, nous raconta Georges Carré. Ça ne l'intéressait plus du tout. Il disait, je ne veux pas courir après la vie, je veux la vivre, tout simplement. L'appartement au-dessus du magasin était vacant, il s'y est installé. Il nous a rejoints au magasin et il s'y consacrait corps et âme. Avec ma femme, on songeait à la retraite, mais les repreneurs éventuels ne nous offraient pas un bon prix pour la boutique. L'idée de pouvoir la céder à notre fils nous plaisait.
Le retour de Walter à Mount Pleasant marqua quelques belles années pour la famille Carré, jusqu'à l'automne 1998.
« Que s'est-il passé à ce moment-là ? »
interrogea Galwood.
« Un beau jour, Eric Donovan a débarqué, » répondit George Carré. « Voilà qu'il se réinstallait à Mount Pleasant à son tour. » Dès lors, tout a changé, surtout lorsqu'Alaska est arrivée ici. Comme je vous le disais, je pense qu'Eric avait des vues sur elle. Il n'a pas supporté qu'elle soit en couple avec Walter, et pas avec lui. Alors il l'a tuée.
C'est votre conviction ?
Absolument. Il l'a tuée et il s'est arrangé pour que tout accuse Walter. On était en vacances dans le Maine quand on a appris la mort d'Alaska. On est revenu illico. Je me souviens qu'en arrivant, Eric rôdait devant chez nous. Il était nerveux. Je l'ai immédiatement suspecté.
Et Walter ?
interrogea Galwood.
Comment était-il après le meurtre ?
Abattu, troublé, répondit Sally Carré. Vous l'avez bien vu.
Il me semble que sous le coup de grandes contrariétés, Walter pouvait perdre les pédales, fit remarquer Galwood. Comme avec son supérieur à l'armée, ou comme avec sa petite copine de l'époque, Deborah Miles, ou comme cette nuit du lundi 5 avril, lorsqu'il a mis le feu à son appartement. Pourquoi Walter a-t-il soudainement disjoncté ce soir-là ?
Je n'en sais rien, répondit Sally Carré.
Il a tapissé les murs de mots orduriers, pute infidèle. A-t-il eu ce soir-là confirmation qu'Alaska avait une liaison ?
Je l'ignore, répéta Sally.
Mais vous-même, dit Galwood, vous aviez un soupçon quant à une liaison entre Eric et Alaska depuis quelque temps, non ?
Oui, depuis environ 2 semaines avant le meurtre d'Alaska.
Et à quel moment l'avez-vous dit à Walter ?
Quand il m'a téléphoné pour m'annoncer qu'Alaska l'avait quitté. C'était le vendredi après-midi, la veille du meurtre.
Vendredi 2 avril 1999.
Maman, elle me quitte.
Quoi ? Qui ?
Alaska. Je suis remonté à l'appartement, j'avais froid, je voulais mettre un pull. Et là, je la retrouve dans le salon, habillée comme pour un rancard, genre bottine à talons. Elle a l'air mal à l'aise de me voir, elle se change rapidement et m'annonce qu'elle est venue récupérer des affaires et qu'elle me quitte.
Oh mon Dieu, Walty, mais pourquoi ?
Et j'en sais rien, ma, j'en sais rien du tout.
Tu veux qu'on rentre, Walty ? On se met en route demain matin tôt et on sera là avant midi.
Non, pas la peine. Qu'est-ce que ça changera de toute façon ? Profitez de vos vacances. Je sais pas trop ce que je dois faire.
Va lui parler, suggéra Sally Carré. Va la voir à la station-service. Demande-lui des explications.
À la connaissant, ça lui donnera encore plus envie de fuir. Elle m'a dit qu'elle allait chez ses parents. Peut-être qu'il faut que je lui laisse un peu d'air.
En tout cas, ne reste pas tout seul à la maison ce soir. Sors, va te changer les idées.
T'inquiète, ma. Eric m'a proposé d'aller voir le match de hockey au National Anthem.
Il y eut un bref silence.
Walty, finit par dire sa mère, il faut que je t'avoue quelque chose. La semaine dernière, quand tu étais à cette convention de pêche au Québec, j'ai vu Eric et Alaska. Ils sortaient de ta voiture.
La voiture d'Alaska avait une fuite d'huile. Je lui ai proposé d'utiliser la mienne en mon absence. Elle aura sûrement ramassé Eric au passage et l'aura déposé chez lui.
Non, Walty, j'aimerais croire que c'était cela, mais c'était une scène très ambiguë.
Walter en eut presque un rire.
Eric avec Alaska ? Mais non, jamais de la vie.
J'ai horreur de devoir te faire de la peine, Walty, mais si elle part, c'est probablement parce qu'elle a quelqu'un.
Ah ça, ça fait un moment que je m'en doute,
répondit Walter d'une voix triste.
Je remarque bien qu'elle est différente et qu'elle reçoit des cadeaux. L'autre jour, elle avait une nouvelle paire d'escarpins. Elle m'a dit qu'elle les avait achetés dans un magasin de Wolfboro. Mais j'ai vérifié. Cette marque n'est vendue que dans une boutique de Salem. Alaska n'est pas en couple avec Eric, maman, mais probablement avec quelqu'un qui vit à Salem. D'ailleurs, je me demande si elle va vraiment chez ses parents, car elle ne s'entend pas très bien avec eux. Si elle va à Salem, c'est sans doute pour retrouver cette personne.
Onze ans après cette scène, Galwood dit à Sally Carré
« Quelque chose m'échappe. Selon vous, Walter se doute depuis quelque temps qu'Alaska le trompe. Vous reconnaissez également que c'est un homme impulsif qui, sous le coup de l'émotion, peut agir de façon disproportionnée, à l'instar de son coup de sang du lundi soir au cours duquel il finit par mettre le feu à l'appartement. J'en reviens à ma question. Pourquoi Walter pète-t-il les plombs ce soir-là ? Il n'est pas une bombe à retardement, c'est un impulsif. Il réagit à chaud. Donc qu'est-ce qui le met dans cet état ? Est-ce que vous l'avez vu ce soir-là ?
Il est venu dîner à la maison, indiqua Georges Carré. Moi, j'étais absent, j'étais à mon club de cartes. Mais j'étais là quand il est arrivé chez nous, il avait l'air parfaitement normal.
Et ensuite ? Demanda Galwood en s'adressant à Sally Carré.
Nous avons dîné tous les deux. Je me souviens bien de cette soirée. Comment l'oublier ? C'est la dernière fois que j'ai vu mon fils en vie.
Lundi 5 avril 1999, 20h.
Comment ça va, Walty ?
Demanda Sally Carré à son fils.
Aussi bien que possible, lui répondit-il en haussant les épaules.
J'arrive pas à croire qu'Alaska est morte. Je sais, mon chéri, c'est épouvantable.
Sally avait préparé un sauté de veau, le plat préféré de Walter. Il toucha à peine à son assiette.
« Il faut que tu manges, mon chéri, » lui dit-elle.
« Pas faim. Pas envie de manger. Désolé.
J'ai du gâteau à la carotte pour le dessert.
Maman, il faut que je te parle de quelque chose.
Je t'écoute, tu peux tout me dire.
J'ai fait une connerie, ma... »
Une connerie ? »
s'inquiéta Sally Carré.
« Comment ça, une connerie ? Est-ce que c'est en lien avec Alaska ? » ?»«
Oui et non. Samedi après-midi, en ville, tout le monde parlait de ce qui s'était passé à Grey Beach. J'ai croisé Tim Jenkins, tu sais, le gars qui était au lycée avec moi et qui est flic à Mount Pleasant. »
« Oui, je vois très bien. »
Tim m'a raconté ce qui s'était passé à Grey Beach. Il m'a dit qu'ils avaient trouvé des éclats de phare et une trace de peinture noire contre un tronc d'arbre.
« Et alors ?»
demanda Sally Carré, le cœur battant. « Samedi, j'ai retrouvé le phare arrière de ma voiture cassé. Le pare-choc était endommagé aussi. J'ai pas eu d'accrochage, je l'aurais remarqué. Je pense que quelqu'un a volontairement commis ces dégâts. »«
Quelqu'un aurait pris ta voiture la nuit du meurtre ? Qui avait accès ?»
Personne n'avait accès à ma voiture.
Et tu laisses toujours ta voiture ouverte, et ton appartement aussi, c'est tellement imprudent. Mon chéri, tout ceci est vraiment très étrange, il faut prévenir la police. On peut aller au poste maintenant. Ou alors je peux appeler le chef Mitchell, si tu préfères. Il pourra nous mettre en contact avec les inspecteurs de la police d'État qui sont venus chez toi.
Ah, surtout pas la police, ma. C'est là que j'ai fait une connerie. Quand Tim m'a parlé de ces débris de phare, j'ai fait le lien avec ma voiture. J'ai paniqué et j'ai pensé que les flics allaient remonter jusqu'à moi. Ils allaient entendre parler de mon accrochage à l'armée, de l'incident avec Déborah. Ils allaient m'accuser d'avoir pété les plombs suite à la rupture avec Alaska. Alors j'ai contacté mon copain Dave Burke, qui travaille à la concession Ford. Il est venu le soir chez vous. J'avais discrètement mis ma voiture dans votre garage pour qu'on puisse bosser dessus sans être vu.
Sally était horrifiée.
« Mon chéri, qu'est-ce que tu as fait ? Tu vas passer pour coupable ? Ton copain Dave va inévitablement être interrogé par les flics. Il va tout leur raconter.
Ne t'inquiète pas, maman, ça va aller. Les flics n'ont aucune raison de remonter à Dave. Il ne dira rien de toute façon, c'est un ami.
Méfie-toi de tes amis, Walt.
Comment ça ? Demanda Walter, qui comprit que sa mère faisait une allusion.
Méfie-toi d'Eric, mon chéri. Je me demande si ce n'est pas lui qui a tué Alaska.
« J'ignorais que tu avais mis Walter en garde contre Eric, » dit Georges Carré à sa femme.
« J'étais obligé, je sentais bien que toute cette histoire était en train de lui échapper. »
Gale Wood intervint.
« Cela prouve encore que Walter, lorsqu'il perd ses moyens, agit de façon impulsive et prend de mauvaises décisions. Il panique en découvrant le phare cassé de sa voiture et réagit en allant aussitôt la faire réparer. Et lorsque vous le mettez en garde contre Eric, il s'énerve ?
« Non, pas du tout. Il est resté très calme. Il m'a répété qu'il avait confiance en son ami. Après ça, il est parti. Il était fatigué, il a dit qu'il avait besoin de se reposer. »«
Donc, il part tranquillement de chez vous ?»«
Oui. »«
Quelle heure était-il ?»«
Vers 21h. »«
Mais alors pourquoi, quelques heures plus tard, met-il le feu à son appartement ?»«
Je l'ignore, » avoua Sally Carré. « Peut-être qu'il a décompensé en rentrant chez lui ?»
« Non, » affirma Gale Wood,
« je pense qu'il a découvert quelque chose. Je voudrais bien savoir quoi. Madame Carré, une question me tracasse. Pourquoi ne m'avoir jamais parlé de cette conversation ? Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour évoquer cette histoire de phare cassé qu'il a fait réparer ?»
À cette question, Sally explosa soudain.
« Parce que le lendemain, il était mort, sergent. Il est parti de chez moi et c'est la dernière fois que j'ai vu mon fils vivant. » Alors qu'est-ce que ça aurait changé que je vous raconte tout ceci ? Est-ce que ça lui aurait rendu son beau visage atrocement déformé par l'impact de balle ? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a reçu une balle à bout portant, sergent ? Parce que moi, oui, et c'était mon fils. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que ça aurait changé au cours de ma vie désormais brisée de vous parler de tout ceci ? Tout ce que je savais, c'est que Walter n'aurait jamais tué ce policier. Il n'aurait jamais attenté à sa propre vie. Il est une victime, victime d'Eric Donovan, victime de la police. Quand allez-vous réhabiliter mon garçon, sergent Gallowood ?
La voix de Sally Carré avait résonné dans le café, attirant le regard d'une serveuse. Sally se leva, imitée par son mari, et ils s'en allèrent. Galwood et moi restâmes à table. Hormis le personnel, l'établissement était désert. Je demandai à Galwood : pourquoi est-ce qu'Eric ne nous a pas parlé de cette histoire de compétition ?
Peut-être parce que, comme le pensent les parents Carré, Eric s'est arrangé pour écarter Walter.
En l'empoisonnant ?
C'est une possibilité. Cependant, ce n'est pas parce que vous trichez pendant une course au lycée que vous assassinez quelqu'un 11 ans plus tard. Je vous avoue que je ne sais plus trop quoi penser.
Ma seule certitude, le lundi 5 avril 1999 au soir, si Walter Carré met le feu à l'appartement, c'est parce qu'il a fait une découverte.
Laquelle ?
À quelques mètres de nous, derrière le comptoir, une femme consultait sans conviction la caisse enregistreuse. Elle semblait nous observer.
« Est-ce que vous êtes Regina Speck ?»
lui demanda alors Galwood. Elle le regarda avec étonnement.
« Oui, comment le savez-vous ? » « Patricia Whitsmith, l'avocate d'Eric Donovan, nous a parlé de vous. »
Elle s'approcha de la table.
« Et vous êtes ce flic et l'écrivain dont tout le monde parle ici ?»«
Oui, pouvons-nous vous poser quelques questions ?»«
Bien sûr. »
Galwood l'invita à s'asseoir. Elle prit place face à nous. Elle devait avoir une quarantaine d'années. Elle était nettement plus jeune que ce que j'avais imaginé lorsque Patricia avait parlé d'elle. Galwood dut partager le même sentiment car il lui demanda
« Madame Speck, quel âge aviez-vous en 1999 ?»«
J'avais 34 ans. »
« Et vous étiez déjà la patronne de ce café ?»«
Oui. Pour être précise, mon père en était formellement le propriétaire, mais il ne tenait plus debout à partir de 10 heures du matin. »«
Pourquoi ?»«
Il buvait. Il en est décédé il y a quelques années. »«
J'en suis désolé. » »«
Vous n'y pouvez rien. » En 1999, c'est moi qui gérais le season. Mes parents étaient divorcés. Ma mère avait mis les voiles quand j'avais 7 ans pour refaire sa vie. Elle ne voulait pas s'encombrer d'une môme. J'ai grandi derrière ce comptoir. J'ai fini par faire de bonnes études. J'avais de très bonnes notes à l'école. J'ai décroché une bourse pour Princeton où j'ai étudié l'économie. Après mon diplôme, j'ai travaillé pendant 5 ans pour une grosse boîte d'audit new-yorkaise. Quel ennui. J'ai fini par revenir à Mount Pleasant. Ça a été soudain une évidence pour moi. Pourquoi aller vivre ailleurs quand on peut si bien vivre ici ? C'était le début des années 90. Le problème de bouteille de mon père s'était aggravé. Et puis ce café menaçait de péricliter. Me réinstaller ici a été la meilleure décision de ma vie. J'ai repris la gestion des lieux, j'y ai mis toutes mes économies et je l'ai rénové en m'inspirant des adresses branchées de Manhattan. Intérieur douillé, produits de qualité... Toute la gamme du café italien, ristretto, espresso, macchiato, cappuccino, etc. Je ne vous cache pas que ça leur a d'abord fait un petit choc aux habitants d'ici. Avec mon père, ils étaient plutôt habitués aux frites cuites dans l'huile de la veille. Mais ça a vite fonctionné, et le succès n'a pas faibli depuis.
Parlez-nous de cette année 1999, si vous voulez bien.
Pas grand-chose à en dire. Le café fonctionnait déjà très fort. Que voulez-vous savoir ?
Est-ce que vous aviez Eric Donovan et Walter Carré comme clients ?
Oui, ils étaient là régulièrement. Surtout Walter, qui habitait en face et qui venait prendre son petit déjeuner avant de commencer au magasin.
Et la mère de Walter, c'est une cliente aussi ?
Depuis que j'ai repris le season, Sally Carré traverse la rue presque tous les jours pour boire un espresso italien. Elle dit que ça la change des jus de chaussettes qu'on sert ailleurs, et surtout que ça lui rappelle un voyage à Rimini d'avant son mariage. La mère Carré... Elle est allée une fois en Italie, il y a probablement 50 ans, et tous les jours, elle prend un espresso bien serré en souvenir de ce voyage.
Donc, vous la connaissez bien.
Ça fait 20 ans que je la vois quotidiennement. Ça crée des liens.
Est-il vrai qu'elle vous a parlé d'une prétendue infidélité d'Alaska envers Walter Carré ?
Oui. Peu avant la mort d'Alaska, d'ailleurs. Si je m'en souviens, c'est parce que j'en ai parlé à l'avocate d'Eric Donovan.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous a dit Sally Carré ?
C'était bref, comme tous nos échanges. Elle s'assied au comptoir, je lui sers son espresso sans qu'elle le réclame, on papote quelques minutes. Ce jour-là, elle semblait tracassée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a répondu qu'elle avait vu la veille Alaska et Eric devant son magasin. Ils se comportaient à ses yeux comme un couple. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Sally ?» Elle m'a répondu, ils se disputaient, il y avait quelque chose de passionnel dans leur échange. J'étais dubitative, S'ils étaient en couple, ils ne viendraient pas roucouler sous vos fenêtres.
Pourquoi n'avoir rien signalé à l'époque ?
Demanda Guy Hollywood.
Nous avions diffusé un appel à témoins.
Quel motif j'aurais eu de prévenir les flics ? C'était une simple discussion de café, pas de quoi fouetter un chat. Puis 2 ou 3 jours après la mort d'Alaska, vous avez arrêté Walter, puis Eric. Qu'y avait-il à ajouter ? J'en ai finalement parlé à cette avocate parce qu'elle posait des questions.
Je comprends. Et Eric Donovan, est-ce qu'il venait ici ?
De temps à autre, mais plutôt en fin de journée pour se détendre et prendre un verre. En vérité, il essayait surtout de me draguer un peu, mais je n'étais pas intéressé.
Si j'ose demander, qu'est-ce qui ne vous plaisait pas chez lui ? Il était bel homme, plutôt sympathique.
Il n'avait pas 30 ans, j'en avais presque 35. Je pensais à faire des enfants. Lui venait de réemménager chez ses parents. Pas exactement le profil que je cherchais. Et puis les pleurnicheurs, c'est vraiment pas mon truc.
Pleurnicheurs ? Pourquoi pleurnicheurs ?
Eric était mal dans sa peau. Il n'était pas heureux.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Il s'en est ouvert à moi. Un soir, on était seuls dans le bar. C'était l'automne 1998. Je m'en souviens car c'était juste avant que je rencontre mon mari. Eric et moi avions bu et on était passablement éméchés. À un moment, il m'a attiré contre lui pour m'embrasser. Je l'ai repoussé. Il s'est excusé et puis il a joué les victimes. Il a dit quelque chose du genre « De toute façon, elle me repousse toute ». On a parlé un peu et il a fait référence à sa petite copine de Salem qui l'avait plaquée du jour au lendemain. Elle avait un autre homme dans sa vie. Il s'était senti tellement meurtri qu'il avait décidé de tirer un trait sur Salem. Il a démissionné de son boulot et il est rentré à Mount Pleasant.
Il avait été viré, non ?
Interrogea Galloway.
J'avais entendu parler de la rupture avec la petite copine, mais il ne me semble pas qu'il ait démissionné. Il a été viré suite à des dissensions avec son responsable.
Regina Speck sourit.
Ça, c'était la version officielle. Pour ses parents. En vérité, il s'était barré. Il avait démissionné. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Vous pourrez certainement vérifier auprès de son employeur de l'époque.
Nous venions de quitter le Season et nous descendions la rue principale lorsque nous fûmes pris en chasse par une voiture de police. Un policier à l'allure athlétique, dans son uniforme cintré, sortit de son véhicule et s'approcha.
Le minimum de la courtoisie aurait été de nous faire une petite visite au commissariat, nous dit-il. Je ne connaissais pas encore cet homme avec lequel Guy Hollywood avait collaboré 11 ans plus tôt. C'était le chef Mitchell.
Chef Mitchell, le salua Guy Hollywood. C'est un plaisir de vous retrouver.
Sergent Guy Hollywood, je ne sais pas si je dois me réjouir de vous revoir ou m'inquiéter des raisons de votre présence ici. D'après Perry, ce que je pus confirmer en retrouvant des photos d'époque dans différents journaux, le chef Terry Mitchell n'avait guère changé depuis 1999. Il avait légèrement minci et un peu blanchi, mais il avait conservé sa coupe au carré, sa carrure sportive et son air volontaire. Même ses lunettes de soleil, de larges lunettes de pilote au vert fumé, semblaient avoir traversé le temps avec lui.
Est-ce qu'il y a vraiment matière à ouvrir l'enquête sur la mort d'Alaska Sanders ? Demanda-t-il.
Nous ne serions pas là si ce n'était pas le cas, répondit Guy Hollywood.
Qu'est-ce que vous avez ?
Des éléments concrets et sensibles. Je promets de vous faire un point aussi tôt que possible.
Pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Suggéra Mitchell.
Le chef de la police de Mount Pleasant était venu à la pêche aux informations. Guy Hollywood ne voulait ni lui donner satisfaction ni le vexer.
Il se peut que des preuves aient été mal interprétées,
expliqua simplement Guy Hollywood.
Vous parlez des preuves contre Eric Donovan ?
Entre autres.
Entre autres ? Walter Carey a pourtant avoué son crime, non ?
Guy Hollywood éluda.
Il a effectivement avoué, mais quand vous rouvrez une enquête, vous devez être prêt à tout remettre en question. Je ne vous apprends rien.
Écoutez, sergent, je vous apprécie. À l'époque, vous avez été correct et tout. Mais c'est une ville tranquille ici. Moins il y a de bordel et mieux on se portera tous. Les habitants ont mis du temps à se remettre de ce meurtre. C'était le premier crime depuis plus de 30 ans. Il n'y en a heureusement plus depuis. C'est un coin paisible. Faut pas venir remuer de la merde comme ça.
Je comprends vos inquiétudes, chef Mitchell. Nous serons discrets, ne vous en faites pas.
Je ne vais pas vous mentir, je m'en fais un peu.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voudrais que vous soyez accompagné d'un de mes agents tant que vous êtes sur la juridiction de la police de Mount Pleasant, par égard pour la population. »
Gallowood eut un sourire ironique.
« L'éternelle méfiance envers la police d'État. »
« C'est un service que je vous rends, sergent. Mount Pleasant est une petite communauté, avec ses propres codes. Vous aurez plus de crédit en embarquant quelqu'un du coin avec vous. Vous êtes ici dans le cadre d'une enquête de la police d'État. Je me dois de vous faire bon accueil. Mais vous êtes en quelque sorte chez moi. Vous devez respecter le patron. »
« Vous avez parfaitement raison, »
assura Gallowood.
« Pourquoi ne pas nous retrouver demain au poste pour définir notre stratégie ?»«
Ça me paraît une bonne idée, » dit le chef Mitchell. « Je vous attends au commissariat dans la matinée. » Il s'en alla en roulant des mécaniques, visiblement satisfait de son petit numéro d'intimidation. « Pourquoi le chef Mitchell se comporte-t-il de cette façon ? » demandai-je.
« Il défend son territoire. Surtout, il est à quelques mois de la retraite. Je le sais car je me suis renseigné. Ça fait 15 ans qu'il dirige la police de cette ville. Il n'a aucune envie de finir sa carrière sur une mauvaise note. Et il a raison de s'inquiéter. Si Eric Donovan est innocent et qu'un assassin est en liberté, ça va être un scandale sans précédent. En route, allons à votre hôtel. Il faut que je prenne une chambre. »
Vous vous installez ici ? Je comprends mieux pourquoi vous avez emporté une petite valise ce matin.
Je ne vais quand même pas vous laisser tout seul, l'écrivain.
Vous vous inquiétez pour moi ?
Si un assassin est en liberté, vous êtes le prochain sur sa liste.
Vous ne croyez pas que vous en faites un peu trop, sergent ?
S'il y en a un qui en fait trop ici, c'est vous.
Je souris. Vous verrez, sergent, l'hôtel est agréable.
Je ne m'installe pas pour me détendre, mais pour boucler une enquête.
Je le sais bien, sergent. D'ailleurs, je me demandais, que feriez-vous différemment si vous pouviez retourner en 1999 ?
Qu'est-ce que vous insinuez ?
11 années se sont écoulées, riches en enseignements, à n'en pas douter.
À l'époque, me répondit Gallowood, je n'ai pas posé assez de questions en ville. C'est un truc que je tiens de vous et de la façon dont vous avez procédé pendant l'affaire Harry Kébert.
Sergent, est-ce que vous êtes en train de confesser que je vous ai appris à faire votre métier ?
Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit.
Je suis très touché, sergent. Je vous paie à dîner.
Je ne veux pas de votre dîner.
Allons, ne faites pas le mauvais bison. Prenez vos quartiers à l'hôtel et ensuite je vous emmène dans un italien. Ce soir-là, Gallowood et moi dînâmes chez Louini. Sur le chemin du retour, alors que nous arrivions devant l'hôtel, je remarquai posée sur un banc une petite statue de mouette identique à celle que j'avais trouvée dans ma chambre. Je m'en approchai. Elle retenait de son poids un dossier d'information de l'université de Burroughs, sur la couverture duquel on avait écrit au feutre rouge « Marcus, mon seul véritable conseil, n'allez pas à Burroughs. »
« Qu'est-ce que ça veut dire ?»
me demanda Gallowood en lisant par-dessus mon épaule. « C'est un message de Harry Kébert. Je pense qu'il fait référence au conseil d'écriture qu'il m'avait prodigué à l'époque. »«
Pourquoi vous parle-t-il de Burroughs ?»
J'ai accepté d'y donner un cours d'écriture à partir de l'automne prochain.
« C'est maintenant que vous m'en parlez. Bravo l'écrivain. Prof d'université, c'est une jolie promotion. »
Harry n'a pas l'air d'être de votre avis. Il veut m'en dissuader, mais j'ignore encore pourquoi. À la table du petit déjeuner de l'hôtel, je lisais « Les mouettes d'Aurora ». J'étais allé l'acheter à la librairie de Cynthia Lockhart et je m'étais aussitôt plongé dedans. Je connaissais déjà bien ce texte, j'étais pourtant avide d'y trouver un indice concernant Harry et la suite qu'il avait donnée à sa vie.